Ouais.
Eliane Lutti, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les zones les plus touchées?
La moitié d'entre elles étaient à Meupthi. Donc ça, c'est un chiffre qui a plus que doublé en un an entre l'année scolaire 2015-2016 et l'année scolaire 2016-2017. Donc c'est vraiment là où on voit la plus forte détérioration. C'est là où on doit vraiment maintenant focaliser nos efforts. C'est une situation qui est extrêmement complexe. On parle de la fermeture des écoles dans le nord et dans le centre, qui est bien sûr les à des questions d'instabilité, à des questions de menaces, mais il y a aussi d'autres facteurs, comme par exemple l'insuffisance des infrastructures dans certaines zones, ou bien encore l'absence ou le déplacement des enseignants. Maintenant, on estime à environ 150 000 enfants qui sont affectés par les fermetures scolaires. À cela, justement, il faut rajouter tous les autres enfants qui sont en dehors du système scolaire pour d'autres raisons. Donc actuellement, on estime à plus d'1 million d'enfants en âge scolaire qui ne sont toujours pas sur les bancs scolaires au Mali. Et ça, les causes sont liées, bien sûr, il y a la question des fermetures d'écoles, mais aussi beaucoup d'autres facteurs, comme par exemple le travail d'enfants, le mariage d'enfants qui affecte une fille sur deux au Mali, et encore le manque d'infrastructures dans certaines zones.
Vous l'avez dit, la situation a empiré. Pour mémoire, il y a un an, il y avait un peu moins de 300 écoles fermées, 500 aujourd'hui. Ça signifie que la situation s'est dégradée en dépit de toutes les initiatives sécuritaires et de toutes les actions nationales et internationales.
Tout à fait, c'est une situation qui s'est nettement dégradée, c'est une situation qui est alarmante. Et tous ces enfants, donc, qui ne sont pas sur les bancs scolaires, ils sont bien sûr privés de leur droit fondamental à une éducation, mais ils sont aussi à haut risque de violation d'autres droits, comme par exemple le travail d'enfant ou pour les filles, comme on voit souvent, le mariage d'enfant. Donc, l'objectif ultime est bien sûr de ramener tous ces enfants à l'école. Maintenant, pour rouvrir ces écoles, il faut bien sûr que l'environnement soit protecteur pour que les enfants puissent retourner à l'école en toute sécurité. Ça, c'est quelque chose qui est au-delà de ce que les partenaires de l'éducation peuvent faire. Mais en attendant, ce que les partenaires de l'éducation peuvent faire, c'est de trouver des mécanismes d'apprentissage temporaire qui assurent la continuité de l'apprentissage pour les enfants, en attendant bien sûr que la situation permette la réouverture totale des écoles.
Alors justement, quelles stratégies dans ce contexte peuvent être mises en œuvre pour renforcer la scolarisation des enfants? Est-ce qu'on peut renforcer la mobilité des élèves? Est-ce qu'on peut former davantage de professeurs au sein des communautés?
Parmi les initiatives qui ont été mises en place est par exemple la création d'espaces d'apprentissage communautaires qui sont facilement accessibles. C'est des structures très simples, très informelles avec des animateurs, mais qui sont à proximité des enfants et qui permettent à des enfants dans des zones vulnérables de continuer leur apprentissage en attendant que leur école se rouvre. Donc en ce moment, nous sommes en train de mettre sur pied 100 espaces d'apprentissage informels dans les zones qui sont les plus affectées, donc à Meupthi, à Manaka, Ngaoué et à Tombouctou. Et on est aussi en train de voir pour piloter des innovations. Donc par exemple, l'apprentissage par audio à domicile peut être un autre moyen pour que les enfants puissent continuer leur apprentissage en attendant la réouverture de leurs écoles.
Et ces espaces d'apprentissage communautaires, ils sont tenus par de véritables professeurs ou est-ce que ce sont des personnes des localités concernées qui sont formées?
Effectivement, donc il faut que ce soit des membres des communautés en question, pour que ce soit des personnes de confiance dans les communautés, auxquelles les parents ont confiance, les enfants ont confiance. Maintenant, ce ne sont pas des enseignants du système scolaire formel, ce sont des animateurs qui sont formés à travers des partenaires du ministère de l'Éducation et des ONG partenaires, de nouveau dans un but d'offrir des possibilités d'apprentissage temporaire en attendant la réouverture formelle de leurs écoles formelles.
Les autorités ont instauré des primes, par exemple, pour inciter les professeurs à retourner dans les villages du Nord. Malgré tout, est-ce que vous constatez peut-être des difficultés à convaincre certains professeurs d'aller dans des zones réputées plus difficiles?
Bien sûr, quand on regarde les zones les plus vulnérables, les zones les plus affectées par la crise, il y a l'interruption des services sociaux. Donc ça veut dire qu'effectivement, au niveau du système de la santé, au niveau du système de l'éducation, on voit effectivement des perturbations, des interruptions des services sociaux de base qui sont disponibles dans ces zones. Donc la question des écoles fermées et la question du déplacement des enseignants est une réalité. Donc effectivement, il faut mettre des mécanismes en place pour s'assurer que toutes les zones sont couvertes par des enseignants qui sont bien formés et qui peuvent offrir une éducation de qualité aux enfants.
Eliane Lutti, merci.
Merci.